Bonsoir, mes soeurs et frères. J'ai le privilège encore une fois de partager la parole de Dieu avec vous, partie des doctrines essentielles de la vie chrétienne, pour que nous soyons raffermis dans la doctrine biblique, que nous puissions encore nous rappeler. Comme d'habitude, frères et sœurs, commencez par un petit rappel. Et moi, personnellement, je pense que c'est toujours bien de faire ce petit rappel parce que on oublie souvent très vite. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Et une des règles aussi de la pédagogie, c'est la répétition. Plus qu'on répète, plus qu'on apprend. Alors, j'espère qu'au moins les titres de chaque cours, vous allez vous en souvenir. Et peut-être un point de plus essentiel ou de plus remarquable dans chaque cours, parce que c'est pas pour tout le monde la même chose, nécessairement. C'est pour ça qu'on fait ce petit rappel à chaque vendredi. Nous allons voir qu'on avait commencé, la vie chrétienne repose sur le fondement de notre connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre. Alors, c'est vrai, ça, la vie chrétienne repose et fondée sur la connaissance que nous faisons de Dieu. Plus qu'on lit la parole, plus qu'on comprend, plus qu'on arrive à connaître le Seigneur et sa volonté pour nous, personnellement. Alors, c'est ça, c'était le cours d'introduction, si je peux dire comme ça, au cours de l'automne, qui va bientôt finir. Il resterait trois cours, si je ne m'avance pas mal. On a vu 9 cours, la vie chrétienne, le premier, l'image brisée de Dieu, le deuxième, et le vendredi passé, on a vu le 9e, ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit le numéro 10. C'est le 10e cours qu'on voit ce soir. Et l'image brisée de Dieu, vous vous souvenez encore, c'était dans le paradis, l'homme a péché, l'homme a succombé à la tentation, à la séduction que le serpent a fait. Alors, il est tombé et puis il a désobéi Dieu. Et pas seulement désobéi Dieu, en vérité, il a aussi fait un blasphème contre Dieu. Pourquoi je dis un blasphème? Parce qu'il a voulu, et le truc pour que Satan a utilisé pour séduire la femme, c'est le fait de dire, vous serez égal à Dieu. Et voilà, l'homme a voulu. Et il a succombé dans la tentation parce qu'il voulait être égal à Dieu. Alors, c'est un blasphème en vérité parce que personne ne peut se comparer ou prétendre être comme l'Éternel, comme notre Dieu, à part Satan, que ça a été exactement la raison de sa chute au ciel. Alors, l'image brisée de Dieu, le plan de la grâce, le plan parfait de Dieu, un plan qui commence justement dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Et après, bon, Dieu a accompli son plan à travers les années, à travers les siècles, jusqu'à arriver à nos jours, et qu'il continue d'achever son plan. Il y a des choses qui se passent, et parfois on peut penser que ce n'est pas, qu'ils ne sont pas sous le contrôle de Dieu, mais oui, oui. Malgré certaines choses, malgré que parfois on pense que le mal gagne du terrain, ce n'est pas parce qu'il échappe au contrôle de Dieu. Mais c'est Dieu permet que l'homme agisse et l'homme agisse tout le temps vers le mal. Alors le plan de la grâce est un plan parfait. Après, appelé de Dieu, et nous avons vu, si vous vous souvenez encore, un appel général, un appel spécial pour ceux qui sont sauvés. Alors, Dieu a fait un appel spécial pour chacun de nous qui avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Après, la conviction de péché. On a vu encore que sans la conviction de péché, il n'y a personne qui pourrait vraiment se convertir à Dieu. Si je ne suis pas convaincu que je péchais, je ne peux pas. Alors, parce que je sentirai pas le besoin que Dieu m'aide et que Dieu m'échange, que Dieu convertisse ma vie pécheresse dans une vie qui est plutôt agréable à Dieu. Et c'est surprenant, mais dans le monde présent, il y a des personnes qui ne savent même pas définir c'est quoi un péché, c'est quoi le péché. Et alors, si le monde n'est même pas conscient de c'est quoi un péché, qu'est-ce que ça veut dire le péché? comment ils pourront alors avoir la conviction de qu'ils sont des pécheurs, des personnes pécheresses. Alors la conviction de péché est importante, capitale pour la conversion ou pour avoir le salut de Jésus-Christ. Après, on avait vu l'élection. Encore une fois, vous vous souvenez, on a parlé qu'on ne peut pas dissocier en fait l'élection de la prédestination, que c'est vraiment très, très infime la différence qu'on peut trouver entre les deux doctrines, l'élection puis la prédestination, et que Dieu nous a élus pour le salut. Et qu'on a vu qu'il y a un appel qu'on appelle l'appel irrésistible, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a prédestiné pour être sauvé, lui, à un moment donné, malgré nous, nous allons venir au pied de Jésus-Christ, au pied de la croix pour être sauvés. Alors l'élection, et après la vraie repentance, et encore une fois, la vraie repentance, il y a certains pas pour venir à la vraie repentance. Vous vous souvenez, quand Judas a trahi le Seigneur, on dit qu'il s'est repenti, puis est allé se pendre. Parce qu'il s'est arrêté là. Il a reconnu qu'il a mal fait, mais il s'est arrêté là. Si lui, il avait vraiment permis que le Saint-Esprit agisse dans son cœur pour faire toutes les étapes, comme le frère avait expliqué, sentir honte du péché qu'on a fait devant le Seigneur, sentir aussi la tristesse pour le péché, et la douleur, qu'on est conscient du péché qu'on a fait, et puis se repentir. Après, il faut confesser le péché, et là, Dieu va agir d'une façon. Alors, parfois, on reste dans une étape à mi-chemin de la vraie repentance. Alors, on a vu ça, et que pour recevoir le salut de Jésus-Christ encore, il faut expérimenter une vraie repentance. Après, on a vu la foi en Christ, et on a vu qu'il y a différentes sortes de foi. La foi naturelle, que j'expliquais, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, et la foi spirituelle. Et la foi qui nous fait marcher dans la vie chrétienne, de la façon que Abraham l'a fait, de la façon que plusieurs héros de la foi, si nous voyons en hébreu, l'ont fait. Hébreu 11, qui parle beaucoup de la foi. Alors, la vraie foi en Christ, puis la foi salutaire, la vraie foi qui vient de Dieu, c'est celle qui Dieu vient implanter dans notre cœur et qui nous convainc pour le salut, pour recevoir Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alors, c'est ça la vraie foi. Le dimanche, vendredi passé, excusez-moi, on a vu naître de nouveau, encore une fois, naître de nouveau. On a vu, moi, j'ai retenu de cet enseignement du cours « Naître de nouveau », le passage de Nicodème, Jésus et Nicodème, dans Jean 3. Si vous vous souvenez, on a écouté, parlé, expliqué un peu le passage. Et je pense que Nicodème, oui, c'est vrai, il croyait d'une certaine façon que Jésus-Christ était le Messie, mais il était d'une certaine façon pas tellement courageux pour l'avouer devant le monde. Parce que Nicodème était un des pharisiens. Et il est venu, dit la parole, pendant qu'il faisait noir, la nuit, le soir, tard le soir. Et pourquoi? Parce qu'il avait peur des Juifs. Okay? Alors, il n'avait pas vraiment le courage de se montrer comme quelqu'un qui avait cru en Jésus-Christ comme étant le Messie tant espéré par le peuple d'Israël. Alors, lui, il est venu quand même. Dieu lui explique tout le temps que la nouvelle naissance, pour qu'une personne naisse de nouveau, il faut qu'elle croie en Dieu et qu'il soit sauvé et qu'il témoigne de sa foi, d'une nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Et alors, ça, c'est le cours passé, vendredi passé, le 9e cours. Et nous allons voir ce soir le 10e, le cours numéro 10, que c'est la justification. Et la justification, il semblerait comme quelque chose de très, qu'on a déjà entendu parler. Mais je vous avoue, mes frères et sœurs, que ce n'est pas comme, pour mon incapacité, c'était pas tout à fait très simple pour faire ces cours-là, parce que on est tellement habitué parfois à certains termes théologiques, bibliques, que on a une perception, mais pas tellement claire de c'est quoi la justification. Alors, nous allons voir c'est quoi la justification. Premièrement, justification et justice sont deux termes juridiques. Quand vous entendez deux termes juridiques, c'est quoi qui vous vient à la tête, là, à vos pensées? À moi, en tout cas, tout de suite, ça me vient un avocat, un juge, un cours. C'est ça qui me donne l'idée quand je pense à juridique, à la jurisprudence. Alors, et c'est là qui se passe toutes les choses pour une personne qui soit accusée d'une telle faute, grave ou moins grave. Mais alors, c'est ça, le terme justice, justification, justice, sont deux termes pleinement juridiques. Et pour avoir une idée de cela, du juge, le juge de toute la terre, dans Genèse 18, 25, la parole nous dit, faire mourir le juste avec le méchant. C'est Abraham qui est en train de parler. Vous vous souvenez, dans ce passage-là, c'est quand Dieu s'est présenté dans une forme corporelle à Dieu. Le Dieu triunitaire se présente dans la personne de trois hommes devant Abraham. Et là, il lui, quel amour! Je suis toujours étonné quand je vois la confiance et comment Dieu considérait son serviteur Abraham devant lui. Il lui confesse ce qu'il va faire. Il lui partage. C'est ce qu'il se prépare à faire avec Sodome et Gomorre. Et il lui partage qu'il va, il est venu pour faire, donner un jugement sévère à ces deux villes-là. Parce qu'il avait comblé le niveau de méchanceté qu'il y avait. Et apparemment, la Bible, tout le temps, quand il parle de avoir le niveau ou dépasser le niveau de tolérance de Dieu par le péché, je vois qu'il y a toujours impliqué le péché moral, le péché qui a à voir avec le sexe, tous les désirs méchants de l'homme envers un sexe mal pratiqué. Là. Le sexe, c'est en dehors des termes de que Dieu a donné à l'homme et à la femme de partager un homme avec une femme et vice-versa. Et là, nous voyons que Dieu lui dit qu'il vient pour détruire. Et là, alors, Abraham commence à parler à Dieu, pas mal osé, Abraham, il fait faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, il le dit à Dieu. Loin de toi, il répète, il met l'emphase. Loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Alors Dieu, et c'est vraiment, c'est étonnant pour moi, ce passage-là. Abraham est en train d'exhorter d'une certaine façon à Dieu. Il lui dit, pense bien, c'est comme si on le mettait dans nos paroles, c'est comme si Abraham était en train de dire à Dieu, pense mieux, tu sais, tu dois repenser ce que tu vas faire, parce que tu vas faire une faute peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que c'était là, dans la tête d'Abraham, mais il vient et il dit, loin de toi, loin de toi. Ben, d'une certaine façon aussi, c'est parce que Abraham était sûr de la sainteté de Dieu. Mais il tenait pas compte. Peut-être qu'il a oublié un petit peu que Dieu est juste aussi. Que Dieu est amour, mais qu'il est juste. Et dans sa justice, il doit punir le péché. Et le pécheur qui tourne le dos à Dieu. Alors, quand on voit ça, on parle de justification et justice. Nous allons voir c'est quoi la justification humaine. C'est quoi la justification ou la justice, justification ou justice de la façon humaine. Et la justice ou la justification humaine ou la justice humaine est purement une déclaration. Elle n'établit pas un homme innocent ou coupable. Elle ne fait que le déclarer, et cela veut dire au-dessus de la loi elle-même. Elle peut déclarer une personne innocente comme étant coupable ou déclarer un coupable comme étant innocent. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Cela veut dire la justice de l'homme déclare une personne devant la loi humaine elle-même. Elle peut déclarer une personne innocente comme étant coupable. Ça veut dire, pendant l'histoire, je ne sais pas combien de cas vous avez entendu, mais moi j'ai entendu dans mon pays d'origine, aux États-Unis, ici au Canada, comment la loi des hommes s'est trompée à plusieurs reprises, condamnant un innocent comme un coupable d'un crime. Un crime, souvent d'un crime assez grave, qui les personnes ont été incarcérées pendant longtemps, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la justice vienne voir que c'était vrai que la personne était innocente. Et on vient tout simplement lui dire, on s'excuse parce qu'on t'a condamné et t'étais innocent. Alors, c'est ça la loi de l'homme. C'est une loi injuste. La justice humaine, c'est une justice, vaut la redondance, injuste. Alors, elle peut déclarer une personne innocente comme étant coupable. Et vice-versa, déclarer un coupable comme étant innocent. Alors, comment est-ce que Dieu voit cette situation de la justice humaine? Comment est-ce que Dieu le prend? Proverbe 17:15 nous donne comment est-ce que Dieu prend cette justice injuste? Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Alors, les deux choses, Dieu les tient comme abomination. Dieu, pour Dieu, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Et c'est ça la justice humaine. C'est ça la justice par laquelle, parfois, l'homme veut se justifier, bien sûr, dans des termes différents, mais il veut se justifier devant Dieu. Plutôt, l'homme vient, et souvent, on entend les non-convertis, qu'il met Dieu dans le banc des accusés et commence à questionner Dieu. Comme voulant dire, moi, je suis plus juste que toi, Dieu. Et c'est ça, l'action. Et à plusieurs reprises, je partageais l'évangile à des personnes qui sortent avec des attitudes comme ça. Je me souviens aussi qu'il y a une chanson en espagnol, d'un chanteur espagnol, qui toute la chanson parle du questionnement de Dieu. Il dit, dis-moi Dieu, pourquoi les enfants avec la famine et les enfants qui sont malnutris, dis-moi Dieu, pourquoi la bombe atomique, dis-moi Dieu, c'est ça. Justement, accusant Dieu des choses que l'homme fait parce qu'il est méchant. Mais c'est comme ça. La justice humaine ne va pas plus loin que ça. Alors, ça nous amène pour voir c'est quoi vraiment l'état de l'homme. C'est quoi l'état de l'homme devant Dieu. Dieu avait dit, dans le temps de Moïse, il a dit à Moïse, il a donné la loi pour que le peuple d'Israël puisse se régir, se diriger, faire sa vie quotidienne en observant, en gardant les commandements, que Dieu donnait dans sa loi. Alors, pour agréer Dieu, l'homme doit accomplir la loi. Pour agréer Dieu, l'homme doit accomplir la loi. Et Deutéronome 27:10 nous dit, « Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je le prescris aujourd'hui. » Je répète, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je le prescris aujourd'hui. » Alors, c'est ça. La seule façon pour que l'homme pouvait agréer Dieu, plaire à Dieu, c'était en accomplissant la loi de Moïse. Alors, Dieu a donné la loi. Je ne sais pas si vous pensez à ce moment-ci à la scène, quand s'est passé toutes ces choses-là. Dieu avait dit à Moïse, « Tu vas t'approcher de la montagne, mais le peuple va rester loin pour qu'elle ne meure à cause de ses péchés. Alors, tu seras comme l'intermédiaire entre le peuple et moi. » De cette façon-là, pour faire une petite application, on peut considérer Moïse comme un type, comme une représentation de Jésus-Christ dans son ministère d'intercession entre Dieu et l'homme. Alors, Moïse, c'était le... Dieu parlait à Moïse, Moïse partageait les paroles de Dieu au peuple. Alors, parce que le peuple avait peur aussi d'être détruit, d'être annihilé par Dieu à cause de ses péchés. Alors, la façon pour agréer Dieu, c'était obéir à la voix de l'Éternel et mettre en pratique ses commandements et ses lois qu'il les avait prescrits. Alors, qu'est-ce que l'homme a fait? Dans ce moment-là, si je me souviens pas mal, l'homme a dit, oui, nous ferons tout ce que Dieu nous demande de faire. Et je pense que pendant un certain temps, peut-être le peuple a essayé de marcher dans la voie de Dieu, selon les commandements de Dieu, mais ça ne dure pas longtemps. L'homme revient toujours à ses sentiers méchants, et l'homme commence à marcher sans tenir compte de la volonté de Dieu, mais il marche selon ses propres désirs. Alors l'homme a transgressé la loi de Dieu. Et dans Jacques, si nous allons voir dans Jacques 2:11, en effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et là, Jacques est comme très sévère en mettant ces deux péchés qui sont assez graves, selon notre perception du péché, mais si on le met d'une façon un peu plus simple, moins grave, tout péché est grave devant Dieu, sauf que nous avons stratifié le péché. Mettons, selon la perception humaine, un péché moins grave. Mettons, si vous n'avez pas volé, vous n'êtes pas un voleur, vous n'avez jamais volé, même pas 25 sous à votre maman quand vous étiez très jeune, ou $1 pour aller acheter pendant l'été, quand il fait chaud, une crème glacée ou quelque chose comme ça. Mais vous avez menti. Alors vous êtes déjà un transgresseur de la loi. Ou vice-versa. Vous ne mentez pas, mais vous avez volé. Vous avez déjà transgressé la loi de Dieu. Alors vous êtes un transgresseur de la loi. Vous êtes condamné. Moi aussi. Si je ne pêche pas d'une certaine façon, mais je pêche d'une autre, je suis un transgresseur de la loi. Alors, je suis coupable de toute la loi. Parce que pour me justifier par la loi, je dois accomplir toute la loi. Et l'homme n'est pas capable de le faire. Alors, ça nous amène au point 2-3. L'homme est coupable alors devant Dieu. Parce que l'homme promet d'accomplir la loi. L'homme a transgressé la loi, alors ça nous met l'homme comme étant coupable devant Dieu pour avoir transgressé la loi. Et Romains 3, 9, 10 nous dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors, par rapport à quoi que Paul pose cette question-là aux chrétiens, parce que Paul est en train de parler à l'Église chrétienne. Qui donc? Sommes-nous plus excellents? Il est en train de faire une comparaison entre les chrétiens et les juifs. Alors, Paul veut exhorter aux chrétiens qui ne doivent pas se sentir meilleurs que les juifs parce que nous avons venu à la connaissance de Jésus-Christ. Il dit nullement, parce que nous avons déjà prouvé par la parole, par la révélation des yeux, que tant juifs comme grecs, c'est-à-dire tant les juifs comme les non-juifs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, c'est Dieu qui assévère cette vérité-là, c'est Dieu qui dit cette vérité-là, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors tout le monde est dans la même catégorie. Et le point 2.4, Dieu dans sa justice doit condamner les transgresseurs de sa loi. Dieu dans sa justice, Dieu est amour, comme je disais tantôt, mais Dieu est aussi juste. Alors comment est-ce que Dieu peut concilier ces deux attributs de Dieu? Comment est-ce qu'il a fait pour concilier l'attribut, le fait qu'il est amour, il est la source même de l'amour, mais qu'en même temps il est juste, que c'est un Dieu vraiment juste. Alors, Dieu dans sa justice doit condamner les transgresseurs de sa loi. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de choix parce qu'il est juste. Et là, il nous amène dans le verset suivant, qui dit « Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. » Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Or, dit, ça c'est le verset de Osée 8, versets 1 et 2. Et si vous voyez, quand il dit, embouche la trompette, c'est-à-dire l'avertissement, et dit, l'ennemi fond comme un aigle. Et ça, la figure qu'il me donne, je ne sais pas si vous partagez la même pensée que moi. Vous avez déjà vu, moi j'aime beaucoup les documentaires, et j'ai déjà vu des aigles, quand ils chassent, ils voient la proie qui se promène sur la terre, et ils les voient de loin, parce que les yeux des aigles sont vraiment puissants, ils voient, et puis quand ils foncent, ils s'en vont en piqué pour prendre sa proie. C'est ça l'idée que dit Dieu de l'ennemi, contre le peuple d'Israël, parce qu'ils ont violé, ils ont transgressé la loi de Dieu. Et dans Romains 3, 19, 20, il nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Alors, quand on pense à la loi de Moïse, je veux vous faire un petit scénario, une scène, que vous pensiez, avant Moïse, il n'y avait pas de loi. Et après Moïse, la loi est finie en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accompli la loi de telle façon que nous sommes dans le temps de la grâce. Moi, dans l'aspect eschatologique, moi, je suis millénariste, dispensationaliste. Ça veut dire que je fais la nuance parce qu'il y a des frères qui croient différemment. Ils ont le droit de penser différemment. Mais moi, je pense que Dieu a régi l'histoire humaine par dispensation. Et moi, disons, si je fais dans des grands traits l'explication de ces trois aspects, la loi est venue avec Moïse, ok? Et nous savons tout ça. Et Dieu a donné la loi par l'entremise de Moïse au peuple d'Israël pour qu'ils puissent guider leur vie dans le sens de que le précepte et loi de Dieu lui demandait de faire. Alors, mais avant ça, il n'y avait pas de loi. Alors, nous pensons, nous qui croyons dans la dispensation, que ça, on appelle cette période-là la dispensation de la conscience. L'homme s'est dirigé selon sa conscience, parce que Dieu a mis dans l'homme un aspect spirituel et immatériel qu'on appelle la conscience. Et nous savons tous une conscience. Alors, dans cette période-là, l'homme savait déjà c'était quoi le bien, c'était quoi le mal. Alors, l'homme pouvait choisir de faire le bien ou de faire le mal devant Dieu. Alors, il s'est guidé par sa conscience. Après est venue la loi, Mais l'homme, dans la dispensation de la conscience, a échoué aussi. Parce que souvent, sachant que c'est quoi le bien et c'est quoi le mal, l'homme a toujours choisi le mal. L'homme a toujours choisi de s'éloigner de Dieu. Après, la loi est venue avec Moïse et c'est passé la même chose. Nous venons de voir qu'ils ont violé dans Osée chapitre 8, qu'ils ont transgressé ma loi, dit Dieu. Il est en train d'accuser le peuple d'Israël plus précisément. Et là, après la loi de Moïse, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et on est entré dans la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église, si vous voulez. Alors, dans tous les cas, et moi, ça m'a vraiment, quand j'ai préparé le cours, ça m'a frappé beaucoup. Parce que je pensais, si Dieu venait nous parler maintenant, de nos jours, à chacun de nous, ou si Dieu parle, si nous voyons dans l'Apocalypse comment Dieu parle aux églises, aux sept églises, il accuse. C'est juste une église que Dieu n'accuse pas de vraiment des choses graves, mais Dieu, s'il nous vient nous questionner personnellement, chacun de nous, d'une façon individuelle, et il me demande, est-ce que tu as accompli la loi, Mauricio? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que j'ai l'autorité spirituelle et la conviction que je me suis vraiment laissé diriger par sa parole et son Esprit Saint? Je pense que nous avons tous beaucoup à réfléchir dans le chemin que nous suivons maintenant sur terre. Mais en tout cas, l'homme, le point 3, l'homme est dépravé et il est condamné par la loi de Dieu. Le verdict contre l'homme, Romains 3:9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Tel que vous voyez auparavant, nullement, car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Et j'ai mis cela comme ça parce que je veux mettre l'emphase. Ce n'est pas que je répète inconsciemment, mais je voulais mettre l'emphase de ce fait-là, qu'on est plus excellent que personne. On est des pécheurs repentis et il y a dans le monde deux sortes de personnes, pécheurs non repentis et des pécheurs repentis. Nous rentrons, grâce à Dieu, dans la catégorie des pécheurs repentis qui allons parler avec l'aide du Seigneur, qui marchons en nous efforçant de délaisser le péché, de délaisser les pratiques mondaines et plaire à Dieu. Et c'est bon. C'est bon, et on n'est pas capable de le faire si on n'avait pas l'Esprit Saint qui nous aide dans nos faiblesses et la parole de Dieu qui me rappelle ce que je suis, qui me dit de chercher tout le temps Dieu, de prier en tout temps. Et alors, c'est Dieu même qui est en train de faire l'œuvre dans nos vies. Et une gloire à lui parce qu'il nous a donné la promesse que l'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et cet espoir, c'est pour chacun de nous, mes frères et mes sœurs. L'homme est condamné à cause de ses paroles et ses désirs méchants, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ça, c'est Psaume 5, verset 9. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Il parle des hommes, en général. Dieu est en train de parler des hommes. Leur cœur, c'est-à-dire le cœur de l'homme, est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous savez avez-vous l'idée de à quoi ça doit sentir un sépulcre ouvert? L'idée que donne le Seigneur dans ce verset-là de Psaume 5, c'est une personne qui est un cadavre, qui est en train de composer après 3 jours, qui a commencé le processus de se désintégrer par l'action naturelle que Dieu a établie. Et, croyez-moi, ce n'est pas un parfum qui sort de là. C'est quelque chose vraiment, vraiment répugnant. C'est quelque chose qui n'est pas agréable de sentir. À ce fait-là, compare Dieu à l'homme. La façon de parler de l'homme, c'est les paroles d'une autre façon, si on pourrait le paraphraser, les paroles, ce que l'homme parle, pue devant Dieu. C'est ça. Et c'est fort. C'est fort. C'est comme ça que Dieu parle aux hommes pécheurs. Et ils sont sur la langue des paroles flatteuses. Ah, que, comment qu'on manque souvent dans cet aspect-là. Combien de fois nous avons flatté quelqu'un juste pour nous faire, pour nous montrer sympathique envers une personne. Et ça, ce n'est pas sincère. Et c'est ça que ce verset-là veut dire, car il n'y a point de sincérité. Il faut que nous donnions des éloges. L'éloge vient d'une sincérité, mais flatter quelqu'un, c'est complètement différent, c'est hypocrite, ce n'est pas sincère. Alors qu'on puisse ne pas faire une pratique similaire à ça. L'homme est condamné à cause de ses actes, pas seulement à cause de ses désirs méchants, pas à cause de ses mauvaises paroles, mais l'homme est condamné à cause de ses actes. Les actes, les œuvres des hommes sont toujours mauvaises, sont vers le mal. Personne ne peut dire par mes œuvres je suis capable de plaire à Dieu. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Alors, c'est ça qu'il dit Romains 3, 15, 16. Et moi, j'aurais voulu voir aussi Ésaïe 59, 7, mais à cause du temps, je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez, si vous notez chez vous, vous pouvez aussi consulter Ésaïe 59, 7 pour avoir un peu plus de lumière sur ce que Dieu dit dans ce point-là. L'homme est condamné pas seulement pour ses paroles mauvaises, pas seulement à cause de ses désirs méchants, mais aussi parce qu'il arrive à la pratique, à mettre en pratique ses mauvais désirs, ses mauvaises pensées. Le point 4, la justice de Dieu doit être accomplie alors. Dieu doit accomplir sa justice en l'homme. Parce qu'on voit, la parole est toujours en train de condamner l'homme. La parole est toujours comme un miroir en train de montrer à l'homme tel qu'il est. Et l'homme, par nature, est méchant. Alors, l'homme est incapable de se justifier soi-même. Et ça, c'est un fait, malgré qu'il y en a qui prétendent de le faire. Les groupes qui veulent atteindre le salut par les œuvres rentrent dans cette catégorie-là. Et il y a plusieurs groupes religieux qui mettent en face, et même des groupes chrétiens. Même des groupes chrétiens, il y a un groupe de religieux qui veulent faire des œuvres pour plaire à Dieu et avoir le salut à cause des œuvres qu'ils ont faites. Et l'autre groupe, il y a un groupe qui accepte Jésus-Christ par la foi, mais qui aboutit à dire qu'ils n'ont plus le salut à cause qu'ils sont de mauvaises œuvres. Alors, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a un groupe qui commence bien, qui accepte le Seigneur par la foi. Je n'ai pas l'autorité spirituelle pour dire s'ils sont sauvés ou pas, mais selon ce que Dieu déclare dans la parole, c'est que celui qui reçoit Jésus-Christ est sauvé. Et j'espère bien pour ce groupe-là qu'ils sont sauvés, mais qu'ils croient que par les œuvres, ils tiennent dans la communion avec Dieu, mais qu'à un moment donné, ils font une mauvaise œuvre ou ils pêchent d'une façon si grave, alors ils ne sont plus sauvés. Alors, c'est à peu près la même chose dans deux sens opposés. Mais Dieu nous explique différemment. Dieu nous dit qu'on n'est pas capable. Et Romains 8, qu'on n'a pas, on va pas voir aujourd'hui, il nous assure qu'il n'y a aucune chose qui peut nous ravir de la main de Dieu parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ, dans la main de Dieu. Dieu nous tient par sa main. Qui sera capable de ravir quelque chose de la main de Dieu? Personne. Alors on est sûr et nous avons un salut sûr à 100% parce qu'il n'est pas basé sur ce que je peux faire, mais dans l'autorité spirituelle et le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix du calvaire où il a pris ma place et il s'est sacrifié par amour à nous. Alors c'est ça. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Et c'est ça. Paul dit, parce que je ne connaîtrais pas que décider, disons, quelque chose de mon prochain est un péché si la loi ne me le disait pas. Hein? Dans les commandements, dans les 10 commandements, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son âne, ni son servant, ni son serviteur. Alors Dieu est en train de dire, c'est un péché si tu le fais. Alors, par la connaissance de la loi, je suis conscient maintenant c'est quoi un péché. 4.2, Dieu dans sa justice doit condamner le péché. Encore une fois, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors ce n'est pas les incirconcis ni les non-circoncis qui sont bons parce que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Et c'est juste par son amour, c'est juste par la miséricorde de Dieu qu'on peut passer à être dans un statut différent devant Dieu. Les hommes sont jugés selon la vérité, afin que rien ne soit caché. Les hommes sont jugés selon la vérité, afin que rien ne soit caché. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. C'est ça, Dieu va juger toujours selon la vérité. Et son jugement, c'est juste. Parce que nous méritons la punition de Dieu. Mais là, on ne l'a pas à cause de son amour, à cause de sa grâce qui est Dieu met en évidence devant les hommes. Le jugement sera prononcé en raison des œuvres. Alors, Romains 3, 20 dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Encore une fois, le verset de Romains 3, 20. Et 4.5, le jugement est égal pour ceux qui pêchent sans la loi que pour ceux qui pêchent avec la loi. Et Romains 2, 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Alors il n'y a pas de choix. Il n'y a pas d'autre choix d'une tiers partie, d'une tiers position. Il y a ceux qui ont péché sans la loi, ils périront par la loi. Comme je disais, avant la loi, le temps de la conscience, l'homme faisait toujours le mal. Alors il mérite la condamnation. Venu la loi, les hommes ont transgressé la loi de Dieu. Alors il mérite la condamnation. Après la loi, Jésus-Christ est venu pour nous donner la grâce, pour nous offrir le salut basé sur son sacrifice, sur la croix. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il rejette Jésus-Christ. Et malheureusement, même nous les chrétiens, souvent nous faisons ce qui n'est pas agréable à Dieu. Alors ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors finalement, Dieu jugera les hommes selon Jésus-Christ. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et c'est ça que la parole nous enseigne, que Dieu a donné toute l'autorité de juger le monde à Jésus-Christ, à son Fils Jésus. Point 5, Dieu a jugé le monde dans la personne de Jésus-Christ. 5.1, le seul amour de Dieu n'est pas suffisant pour nous justifier. Et ça sent comme bizarre, non? Si vous voyez, le seul amour de Dieu n'est pas suffisant pour nous justifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu, on sait toujours, nous savons tous que Dieu aime l'homme, que Dieu nous aime, d'une façon spéciale à nous, les chrétiens, nous qui avons cru dans le sacrifice de son Fils bien-aimé. Mais si Dieu avait pensé, j'aime tellement la création que je fais, j'aime les créatures, j'aime la race humaine, mais Dieu s'arrête là, on ne serait pas pourtant sauvé. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui mène à l'action. Jésus-Christ n'est pas comme nous, qui disons aimer beaucoup nos femmes, nos époux, nos enfants, et souvent nous faisons des choses qui montrent le contraire. Malheureusement, c'est comme ça. Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est parfait. Et il est proactif envers l'homme. Dieu n'est pas resté à penser, oh, comment j'aime la race humaine, mais ils ont chuté, ils ont fait le mal devant moi. Et ils auraient resté là, nous serions tous condamnés. Mais non, l'amour de Dieu l'a amené à l'action. La Trinité s'est mise à discuter, et juste pour le dire, pour donner une idée, là, et Jésus-Christ a dit, je vais pour donner ma vie volontairement pour sauver l'homme. Parce que là, on peut penser à Jean 3,16, que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà, l'amour de Dieu ne reste pas inactif. L'amour de Dieu se montre en action. Qu'il tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 24. Jésus-Christ nous a rachetés par son sacrifice. 5.3, l'amour de Dieu est la source de notre justification, mais la mort de Christ est son fondement. L'amour de Dieu, écoutez bien, l'amour de Dieu est la source de notre justification, mais la mort de Christ est son fondement. Et nous voyons dans Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, si l'idée, si Dieu nous a tant aimés quand nous étions rebelles contre ennemis de Dieu, parce que nous allions vraiment au sens contraire de ce que Dieu voulait qu'on aille. Alors, si l'amour de Dieu est tel qu'en étant ennemis, avoir offensé comme nous offensions Dieu avant, dans la vie ancienne que nous étions, si en étant dans cette situation-là, Dieu nous a aimés de telle façon qu'il nous a réconciliés, alors étant déjà réconciliés, dit Paul, il va nous sauver par sa vie. Et 5.4, nous sommes justifiés par la résurrection de Christ. C'est la résurrection de Christ qui donne ou qui achève la justification de l'homme devant Dieu. Et Romains 4, 25 dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, notre justification est complète par la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? La loi de Dieu, la justification de Dieu envers nous, qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, est telle que Dieu nous établit juste par déclaration. Il nous déclare puis nous établit juste. Okay? C'est pas pareil que la loi humaine qui déclare une personne, mais devant la loi humaine elle-même, mais que parfois l'homme, il va innocenter un coupable ou vice-versa. Il va condamner un innocent. La loi de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il nous déclare, il nous établit comme juste. C'est-à-dire que Dieu nous voit avec la même justice qu'il voit son Fils. Et c'est quoi la justice qui a son Fils? Lui, il est parfait. Il ne pourrait pas être condamné de nullement, d'aucune façon, parce qu'il est parfait. Il a accompli la loi de Dieu. Il a satisfait la demande de Dieu qui pesait contre nous. Parce que nous avons offensé Dieu, nous avons transgressé sa loi, alors nous sommes coupables. Jésus-Christ n'a jamais péché. Et il a accompli à 100% la loi. Et il l'a accompli en étant homme. Pas comme Dieu. Jamais. Jésus-Christ a toujours utilisé son pouvoir pour aider les hommes, mais jamais pour se auto-consoler ou pour... aminorer la souffrance. Parce que non, il devait souffrir, parce que c'était prescrit comme ça dans la loi de Dieu. Et il a accompli parfaitement la loi, de telle façon qu'il a été déclaré juste par son Père lui-même. Et alors, il a la capacité de nous déclarer et de nous établir juste à tous ceux qui venons nous accepter son sacrifice par la foi. Alors, la foi, justement, le seul moyen pour nous approprier de la justice de Christ. Le point 6. La foi, c'est le seul moyen pour nous approprier de la justice de Christ. Christ est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 2, 2 dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que dans le sacrifice de Dieu rentre toute l'humanité. Les centaines de milliers de personnes qui habitent le monde, l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire est tellement large, tellement grand, tellement profond, tellement haut, que la race humaine complète rentrerait là si tel était le cas. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Beaucoup sont appelés, peu choisis. Peu de personnes sont choisies. Mais il est Christ le sacrifice expiatoire. Et quand on parle d'expiatoire, c'est ce qui comme l'agneau pascal qu'on venait sacrifier et avec lequel le sang de cet agneau, le sacrificateur venait au propitiatoire et il allait répandre le sang de l'agneau pour couvrir les péchés du peuple dans l'époque de Moïse. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de l'agneau parfait qui n'a jamais péché, qui a été sacrifié et qui a agréé Dieu par sa vie et par son sacrifice de telle façon qu'il a l'autorité de nous purifier et de nous justifier devant son Père. Alors, c'est ça l'idée, que Dieu, le sang de Jésus-Christ a été arrosé et nous sommes couverts par ce sang béni et saint. Alors, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. 6.2, Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Et ça était toujours dans l'Église primitive, parfois des points de discussion. Et il y en avait qui disaient que Abraham a été vraiment justifié par les œuvres, parce qu'il était, selon spirituellement parlant, il a sacrifié son fils. Mais maintenant, parce que il y a des preuves que la même parole donne en disant que il a cru, Abraham a cru à Dieu et ça lui a compté par justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Imputée, on pourrait dire attribuée, pour utiliser un mot plus courant. Sa foi lui est attribuée comme justice, ou imputée, le mot biblique. 6.3, la circoncision ne justifie personne. On a vu que les Juifs ne peuvent pas se justifier, malgré qu'ils croyaient que parce qu'il était circoncis, c'était un des faits importants pour être juste devant Dieu. Et c'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Pose la question Paul. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Alors, ce n'est pas la circoncision par laquelle un peuple, dans ce cas-là, le peuple d'Israël peut se justifier devant Dieu, parce que vraiment la circoncision a été donnée comme preuve de ce que du fait qu'Abraham a cru à Dieu et que Dieu a fait un pacte avec Abraham. Vous vous souvenez le passage quand Dieu demande à Abraham de couper des bêtes à moitié, quelques volailles aussi, comme signal du pacte, parce qu'à l'époque, quand deux personnes faisaient cela, ils mettaient une brebis, un agneau, ils les coupaient en deux, puis les hommes devaient passer tous les deux comme signal que les deux ils faisaient un engagement d'accomplir le pacte qu'ils faisaient. N'importe quelle sorte de pacte. Mais Dieu, si vous voyez ce passage-là, je ne me souviens pas malheureusement maintenant, mais c'est à peu près dans le Genèse 18, 20, à peu près là, qui dit que la nuit, on voyait comme un flambeau qui passait entre les bêtes coupées à moitié. parce que Dieu était en train de faire un pacte à Abraham, mais un pacte inconditionnel. Parce que si le pacte n'était pas inconditionnel, Abraham aurait dû aussi passer parmi les deux moitiés des bêtes qui étaient mises lorsque Dieu l'avait demandé. Mais on voyait le flambeau qui passait, c'est juste le flambeau. Dieu passait entre les bêtes en faisant un pacte à Abraham, parce qu'Abraham était justifié par la foi, parce qu'il a cru ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu lui avait dit. Alors, on finit. La justification émane de la grâce de Dieu. Et ça, c'est une grande vérité, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous connaissons tous ce passage-là. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Mais c'est clair. Ce passage-là n'a pas besoin que quelqu'un nous l'explique. C'est par la grâce. C'est gratuitement que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Le moyen de la foi. La foi, c'est comme le véhicule qui nous amène. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est clair. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. Ce n'est pas parce que vous êtes beau. Ce n'est pas parce que vous êtes circoncis, ce n'est pas parce que vous êtes incirconcis, mais c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne gratuitement, juste parce qu'il nous a aimés, tant aimés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut, la justification était par les œuvres, comment pourrais-je faire pour savoir à quel niveau j'ai déjà fait assez d'œuvres pour avoir le salut? C'est toujours, toujours incomplet. Et les œuvres en plus, dans Esaïe, chapitre 1, le premier chapitre d'Esaïe, la parole nous dit que les œuvres des hommes sont puantes devant Dieu. Hein? Et ils sont vraiment comme un plaie infecté qui sort toutes des choses pourri et qui sent mal, c'est comme ça les œuvres de l'homme envers Dieu. Alors, la seule façon, la seule manière dont nous pouvons avoir la justification, c'est de venir et accepter par la foi le cadeau de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Si on fait une application, moi, je pense seulement, réjouissons-nous, frères et sœurs, d'avoir été justifié gratuitement par Dieu, par le sacrifice parfait de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyons sûrs que par la foi en ce sacrifice, nous sommes justifiés et serons nous tous avec lui pour toute l'éternité. Et c'est un cadeau immense qui n'a pas de prix. Le même Fils de Dieu, le même Dieu incarné, a voulu se donner parce qu'il vous a aimé et parce qu'il m'a aimé. Et si quelqu'un écoute ce cours-là et n'a jamais fait profession de foi, il n'a jamais accepté Jésus-Christ, que ce cours-là puisse lui donner l'opportunité de réfléchir et de voir que par les œuvres, personne ne peut se justifier devant Dieu, voir que nous sommes tous condamnés, parce que souvent, le penchant de l'homme, c'est le mal, parce que nous sommes toujours enclins à faire les choses qui sont désagréables à Dieu. Et c'est juste par son Saint-Esprit, par sa parole, que Dieu va nous amener jusqu'à la fin, quand nous serons tous avec Dieu pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier seulement, et nous aurons déjà fini le cours de ce soir. Notre Dieu, nous te remercions, c'est toi qui peux à amener à la perfection l'œuvre que tu as déjà commencé à chacun de nous. Permets que notre foi soit inébranlable, que nous soyons fermes dans la foi, que nous puissions, Seigneur, marcher selon le guide de ton Saint-Esprit et ta parole, que nous puissions nous avancer, Seigneur, avec ton aide dans la sainteté, et que nous puissions avancer ton royaume ici sur terre pour que plus de personnes puisse venir à la repentance et être justifié par le sacrifice de ton Fils bien-aimé. Que la gloire soit pour toi, Seigneur, pour tant de choses et pour ton amour et ton sacrifice envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.